Voilà, donc on est toujours à Livre Évasion, bien sûr, 28e édition, et on rencontre les auteurs, et là, on va être avec Madame Catherine Gans-Müller. Hein, vous venez de Valence, vous m'avez dit, un parcours, vous allez nous en parler un peu atypique quand même. Hein.
Peut-être.
Sûrement.
Peut-être, ce sera à vous de juger.
Alors, vous êtes à la retraite, vous m'avez dit que vous avez travaillé dans le cinéma, vous avez été libraire, vous avez occupé des salons du livre.
J'étais là, bibliothécaire
aussi. J'étais bibliothécaire aussi. Donc, qu'est-ce qui vous a attiré donc, dans tout ce qui est la résistance, puisque vous ferez une conférence, vous avez fait une conférence, puisqu'on enregistre le dimanche à Livre Évasion, sur résistance, mémoire et transmission. Alors, c'est important, hein, quand même, c'est ce qu'on dit, la transmission, parce que les jeunes générations n'ont pas connu quand même ce qui s'est passé dans les années 40, ce qui n'était pas exceptionnel, quoi.
Absolument. Et ils ont besoin de le savoir.
Oui.
Et c'est là où on a le devoir, j'estime, de transmettre tout ça, parce que on dit que l'histoire ne se répète pas.
C'est fou.
Mais Gide a une phrase que j'aime énormément. Il dit on explique les choses, on les répète, et comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer. Il le dit beaucoup mieux que ça, mais c'est ça, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et en ce moment, je pense qu'il est bon de savoir ce qui s'est passé entre 1930 et 1945, à peu près.
Oui, voilà. Alors c'est vrai que tout le monde a dit que c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est la dernière. Quand on voit ce qui se passe actuellement, on est loin d'être la dernière.
Je pense qu'ils ont dit ça en 70, ils ont dit ça en 14-18, ils ont dit ça en 39-45. Bon, il faut espérer que... avec le temps et les nouvelles technologies, on soit devenu un peu plus intelligent et moins prêt à guerroyer comme ça. Mais oui. J'ai pas très confiance dans l'être humain, en fait.
Pas du tout. Non, parce que depuis la nuit des temps, les hommes sont toujours battus.
Alors voilà,
c'est incroyable. Hein.
C'est pour le pouvoir.
Et pourquoi ?
Alors,
c'est
pourquoi,
le pouvoir.
En général, on peut remonter dans l'Antiquité.
Hein.
Soit
oui.
C'est un besoin de territoire. Hein, c'est comme les gosses à la plage, je veux, voilà. Donc besoin de territoire et puis besoin de pouvoir. Je serai plus fort que toi. Alors je sais pas, est-ce que ça vient, je vais pas faire du féminisme de bas étage, mais est-ce que ça vient pas du fait que ce sont souvent les hommes qui sont au pouvoir et pas les femmes?
Ouais.
Est-ce que ça changerait quelque chose? Mais je ne sais pas, j'en suis pas sûre. Les femmes sont capables de demander du pouvoir aussi et d'écraser la copine pour atteindre ce pouvoir. Non, mais il faut être lucide.
D'accord. Oui, alors bon, vous disiez la mémoire, on a l'impression que certains l'ont oublié quand on voit ce qui passe actuellement avec l'extrême droite. Bon, on peut en parler, hein. Moi j'en parle en toute liberté, hein. Mais alors, ce qui surprend un peu, c'est quand on est à Israël, un pays où il y a des juifs, et quand on voit ce que les juifs ont subi, et ce qu'on voit en ce moment, ce que Netanyahou, là, il fait subir aux autres, ça paraît invraisemblable, ça.
Ben, c'est là où je reviens un peu sur ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire ça n'a aucun rapport avec la Shoah, ou quoi.
Voilà, ouais.
Netanyahou est un fasciste, est un dictateur,
voilà,
point. Oui. Je veux dire, qu'il soit juif et président d'un État fondé après la Shoah, n'a aucun rapport. C'est un facho, point.
Ouais.
Faut dissocier un petit peu les deux. C'est un facho et un colonialiste, comme beaucoup d'Israéliens d'ailleurs,
ouais, ouais.
Mais pas tous.
Ouais.
Faut pas mettre
ah ben non,
dans
faut
le
pas
même
tous
sac,
se mettre hein. dans le même sac. Oui, c'est
non, non, non. Il y en a qui souffrent énormément de tout ça.
Donc là, vous parlez de justement, on parle de transmission. Et puis donc dans votre livre, Pierrot, résistant dans le Vercors. On sait que ça a été un haut lieu de la résistance. Hein.
Eh oui.
D'ailleurs, même chez nous, hein, parce qu'au Théotoir,
ah oui, oui, bien sûr.
Il y a eu ce qui est très connu, c'est Estivareil. Hein,
bien sûr.
Mais qu'est-ce qui vous a attiré dans...
Alors,
comment vous avez connu, comment vous êtes arrivé à ça
Comment je suis arrivé à ça? Alors, j'avais écrit chez un éditeur, donc, les deux premiers livres, Le Libraire de Cologne et Au cœur de l'orage, qui sont l'histoire de ma famille juive allemande, qui a dû émigrer d'Allemagne au moment de l'arrivée d'Hitler, qui avait une librairie et qui a confié, mon grand-père a confié sa librairie à un jeune homme qui a décidé de sauver cette librairie, ce commerce juif, envers et contre tous. Et la seule arme qu'il avait du haut de ses 22 ans, c'était le livre et la culture. Et bien, il y est arrivé. comme quoi c'est faisable.
D'accord.
Et l'autre livre raconte l'histoire de ma famille arrivée en France alors que la guerre éclate, que Pétain arrive au pouvoir, qui sont toujours juifs, hein, y a pas de souci, qui n'ont toujours pas de papier par contre, et il faut qu'ils fuient. Donc c'est les camps, ils ont vécu des choses, les camps d'indésirables, vous avez dû en entendre parler, Gurs, camp des Mille, etc. Ils sont passés par tout ça. Et pour arriver à survivre.
Ouais.
Et donc, je publie ces deux livres. Et chez un éditeur qui, un jour, me dit, voilà, j'ai une collection qui s'appelle « Vie la vie 2 ». Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu voudrais écrire quelque chose? Et je me dis, j'avais beaucoup de documentation sur la Deuxième Guerre mondiale. Je me dis, je vais utiliser ça. Puis le Vercors, moi, j'entendais parler du maquis du Vercors. Donc, c'est comme ça que j'ai écrit l'histoire de Pierrot. Et l'histoire de Pierrot, c'est donc l'histoire d'un gamin qui a 17 ans, en 44, qui entend l'appel du général de Gaulle après le débarquement, il faut les forces de l'intérieur, etc. Et le gamin se dit, moi aussi, je vais monter dans le Vercors, moi aussi je vais résister. Et donc il va partir dans le Vercors, là il va découvrir ce que c'était que le maquis, les armes, le danger, etc., etc. Et il va être nommé agent de liaison parce qu'il connaît parfaitement le Vercors, c'est un randonneur, donc voilà. Et en tant qu'agent de liaison, il va être témoin du massacre de Vassieux. Vassieux, c'est un village martyr au même titre que
Coradour-sur-Glane.
Coradour-sur-Glane.
Ouais. Non, mais ça gêne pas.
C'est insupportable. Coradour-sur-Glane qui a été, parce que en fait, le maquis a été investi par la Wehrmacht.
Oui.
Et le maquis savait que la Wehrmacht n'était pas loin, donc ils ont appelé le général de Gaulle, qui était à Alger, pour avoir du renfort. Et on lui disait, oui, on va vous envoyer. Ils n'ont jamais vu venir le renfort, mais ils ont vu arriver des avions, des planeurs et tout, et ils se sont dit, ça y est, c'est l'aide qu'on a demandé. Et en fait, c'était les Allemands qui attaquaient.
Ouais.
Et donc, il y a eu une douzaine de planeurs qui ont atterri sur Vassieux, où il y avait un terrain d'atterrissage qui avait été fait exprès pour accueillir l'aide qui devait venir d'Alger. Donc, ils en ont profité. Et là, à peine descendus des planeurs, ils ont incendié le village, les habitants qui couraient vers eux. Enfin, ça a été un massacre effrayant. Il y a eu plus de 200 morts sur 300 habitants, des tortures, des trucs horribles.
Ouais.
Et donc, mon petit personnage, Pierrot, il assiste à ça, impuissant, évidemment, terrorisé, avec sa copine qu'il a retrouvée sur les chemins du Vercors, parce qu'il a quand même 17 ans.
Hein, ah oui.
Voilà. On est fou quand on est 17 ans. Et donc, ça me permet de raconter ça et la destruction du maquis du Vercors. Parce que ce maquis, qui a fait un travail admirable avec tous les gens du pays et tout, a été détruit finalement, complètement éradiqué par la Wehrmacht.
Eh oui. Alors bon, c'est vrai que c'est un épisode un peu triste, mais c'est même...
C'est tragique. Et les gens, excusez-moi, je suis allée là-bas, j'ai interrogé des gens.
Oui.
J'ai travaillé avec des historiens spécialisés dans le maquis du Vercors. Et on se rend compte, les gens, même plus jeunes, ceux qui ont 40 ans aujourd'hui, ils ont le traumatisme de leurs parents et de leurs grands-parents, quoi, qui ont vécu ça.
Ben oui. Et alors, mon père avait fait des chantiers de jeunesse à Châtel-Guyon, et je sais qu'il m'avait toujours expliqué, mon père était dans l'automobile et il travaillait, donc il avait un chef et il faisait au garage, ils entretenaient les camions et tout, et il m'avait dit, mais on comprend pas, nous, chaque fois que tout est bien remis en état, le mec qui arrive, ils emmènent les camions. Et il a su qu'à la fin, quand il a fini, c'était le chef, leur chef, qui était un chef du maquis. Il dit, parce qu'on ne comprenait pas, on mettait tout en état, lui, ça partait. Donc, c'était quand même... Ils étaient un peu partout,
C'est sûr.
Et il fallait être...
Et même les enfants. Moi, j'ai le témoignage d'un monsieur un peu âgé qui me racontait, il avait 10 ans à cette époque-là.
Ouais.
Et il habitait sur Saint-Marcelin. Saint-Marcelin, c'est la vallée et le Vercors au-dessus. Et sa maman lui disait, tous les jours, il fallait qu'il regarde si la fermière dont on voyait la ferme sur le flanc du Vercors avait étendu du linge et de quelle couleur était le linge. Donc il allait, il courait, c'était un jeu, il disait le linge est blanc et tout. Ah non, il y a des trucs de couleur. Ah bon ? Et en fait, c'était un signal pour le maquis.
Voilà, d'accord, oui, oui.
Si c'était blanc, il pouvait passer. S'il y avait des couleurs, c'est qu'il y avait des commandos allemands qui passaient sur la route. Et alors, mon Pierrot, il va quitter le Vercors parce qu'il faut qu'il fuit tout ça. Et en fuyant tout ça, évidemment, il y a des traîtres, il vit des choses terribles, il est blessé, enfin, je ne vous raconte pas.
Ouais.
Il dévale les portes du Vercors. Et tout ça, c'est des choses que j'ai lues qui sont des témoignages de gens qui ont vécu ça.
Ouais.
Parce que je me suis abreuvée de témoignages de gens qui ont fait le maquis, et puis d'historiens que je cite spécialisés là-dedans et qui m'ont expliqué énormément de choses. Quoi.
Oui, voilà. D'ailleurs, il y a pas mal de films qui sont sortis. Hein,
tout à fait.
Ouais.
Et alors, à la fin du livre, il y a un petit dossier documentaire avec des explications sur le nom des commandants de l'époque, les armes qu'ils utilisaient, sur l'aide de la population, parce que la population les a beaucoup aidés.
Il fallait.
Voilà, exactement.
Et vous avez été édité par qui ?
Les éditions Scrinéo.
Ah d'accord, je ne connais pas.
Voilà, c'est une édition parisienne, nationale, qui est très bien diffusée. Et donc, il m'a diffusé ces trois-là.
Et il y aura une suite ou pas ?
Non, pour le moment, je m'arrête. Là, le prochain qui sort... au mois de juin, j'ai un livre qui sort qui s'appellera Louise, le vent de la liberté, chez un autre éditeur, et qui raconte l'histoire d'une jeune femme dans les années 20 qui va bénéficier de toute cette transformation dans la vie des femmes qui a suivi la guerre de 14 et qui va dire moi je veux pas être une paysanne veuve, je veux autre chose, et donc elle va s'inventer une vie différente et elle va être faire partie de toute cette modernisation de la société et de la vie des femmes, de l'émancipation des femmes qui a suivi la guerre de 14.
Bah oui,
puisque... qu'on ne sait pas toujours.
Oui, oui, parce que bon, à la guerre de 14, il n'y a pas eu les femmes, il n'y avait plus d'hommes. Hein,
exactement, il n'y avait plus d'économie. Ouais. Elles ont fait tourner l'économie.
Oui, c'est vrai.
Et donc, effectivement...
Mais même en 39-45. Hein,
oui, mais bien sûr.
Puisqu'elles travaillaient dans les usines et tout.
Bien sûr. Mais en 19-20, c'était d'autant plus marquant que ces femmes, avant, elles étaient au foyer. En plus, moi, c'est une petite paysanne bretonne. Alors, elle était à la campagne. Bon, elles n'allaient pas à l'école longtemps. Et puis même quand elles allaient à l'école, on les réquisitionnait pour les foins, on les réquisitionnait pour les enfants. Bon, elles savaient à peine lire et écrire. Et ça a été vraiment le fait qu'elles remplacent les hommes partout, au champ comme à l'usine. Ça a été un apport énorme. Donc je me suis un peu attachée à ça.
Ben écoutez, merci. Et puis,
merci à vous. Et puis, n'hésitez pas, je dis ça aux auditeurs, d'aller dans les meilleures librairies du coin.
Ah oui, mais surtout que nous, on en a une très bonne.
C'est vrai.
Donc, et qui travaille beaucoup.
Ouais. Bon, voilà. Donc, Catherine Bonsmuller, ils auront tout mis.
Oui, mais j'en parlerai.